gloire au Seigneur. Nous allons, dans l'avancée de ce temps de louange, méditer la parole de Dieu et je veux vous transporter avec moi jusque au temps de Néhémie, dans le livre de Néhémie, dont nous faisons une lecture au chapitre 8. Nous allons lire quelques versets ce matin. Je voudrais vous parler du culte qui plaît à Dieu, le culte qui plaît à Dieu. Il y a le culte qui plaît à Dieu et il y a le reste. Nous voulons un culte qui plaît à Dieu. La Bible nous dit au chapitre 8, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Mazéja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Milkija, Hachoum, Badana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shebataï, Odija, Mazéja, Kelita, Azaria, Josadab, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Au chapitre 3 et au verset 9, pardon, et au verset 3, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Amen. Voilà donc une lecture qui nous plonge dans un temps de réveil particulier au sein du peuple d'Israël. C'est la reconstruction de la muraille qui avait été détruite et ce fut là un moment très spécial pour le peuple de Dieu. La captivité était maintenant terminée, les Juifs étaient retournés à Jérusalem, ils étaient heureux, Dieu avait abondamment béni, le fait qu'ils reviennent était quelque chose de glorieux, c'était l'accomplissement de la promesse, et puis la construction ne se faisait pas dans un contexte facile, mais le Seigneur les avait assistés, donc ils sont heureux de célébrer Dieu, ils le font de tout leur cœur. C'est Néhémie qui réunit toutes ces personnes, sur une place qui est devant la porte des eaux. C'est précisé comme cela, et il célèbre l'Éternel. Alléluia. Je crois que le culte, c'est de pouvoir aussi, non seulement il y a le culte personnel, mais de pouvoir nous retrouver ensemble afin de célébrer le Seigneur de tout notre cœur. La précision qui est donnée ici m'a interpellé, c'est sur la place qui est devant la porte des eaux. Quand je lis dans le livre de Néhémie, toujours au chapitre 3, le verset 26, il est dit ceci: les Néthiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en Saïd. Il y a ici une petite indication qui ne m'a pas laissé indifférent, c'est que les portes de Jérusalem avaient été détruites et avaient besoin d'être restaurées. Et chaque fois qu'une porte était restaurée, le texte nous l'indique. Ça commence par la porte des brebis, etc. Mais ici, si vous remarquez bien, il est dit qu'ils ont travaillé jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux. Mais il n'est pas précisé qu'ils aient réparé cette porte. Pourquoi ? Eh bien parce que cette porte n'a pas eu besoin d'être restaurée. Et comment pourrait-il en être autrement, étant donné que cette porte symbolise la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas besoin de restauration, n'a pas besoin de modification, c'est la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Et je crois que tout ce que le Seigneur a consigné dans sa parole est pour nous aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus, priant pour nous et pour les siens, dira: Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons besoin de réaliser que le vrai culte, c'est vraiment de nous tenir devant le Seigneur, mais la place que nous devons occuper, c'est celle de la parole de Dieu qui demeure toujours la même. La Bible nous dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Alors, je prends ce texte pour souligner le fait que nous avons un exemple d'adoration authentique. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle adoration ou qu'on appelle culte aujourd'hui, mais une grande partie de ce que l'on appelle culte ou adoration ne ressemble pas à ce que nous trouvons dans la Bible et même dans ce passage. Je suis convaincu que pour rendre à Dieu un culte qui lui est agréable, il faut s'inspirer des exigences qui sont les siennes. Et il faut comprendre la nature même du culte. Si notre adoration, si notre culte ce matin ne correspond pas à ce que la Bible enseigne et nous éloigne des textes de la parole de Dieu, je crains que ce que nous vivions ne soit pas la véritable adoration, ne soit pas le véritable culte. Vous savez, la société dans laquelle nous sommes a adopté l'idée de chacun pour soi, ou plus exactement, chacun comme il pense, chacun comme il veut. Et il faut respecter chacun. Et dans le domaine de la vie chrétienne, on voit que c'est chacun comme il en vit, c'est chacun comme il le comprend ou comme il le souhaite. Et ça m'a amené à quand même un peu fouiller pour moi-même et me poser des questions. Je crois que on peut déplacer l'objet du culte d'une manière qui nous paraît spirituelle. Aujourd'hui, les églises adorent plus leur style de culte que le Seigneur qui doit être l'objet de notre adoration. J'ai lu une citation que je vais partager avec vous. Chaque fois que la méthode d'adoration devient plus importante que la personne adorée, nous avons déjà prostitué notre adoration. Il y a des églises entières qui adorent la louange et louent l'adoration, mais qui ne sont pas ou qui n'ont pas encore appris à louer et à adorer Dieu en Jésus-Christ selon sa parole. C'est-à-dire qu'on peut aimer le style d'adoration plus que le Seigneur lui-même. Et lorsque, on ne s'en rend pas compte, on dit, mais oh, c'est formidable, je me ferme bien, c'est extraordinaire ce que l'on fait, la manière dont on loue le Seigneur, c'est vraiment, j'aime ça, c'est bien d'aimer le style que nous utilisons pour adorer le Seigneur, mais ne jamais oublier que nous n'adorons pas le style, nous n'adorons pas la méthode, mais nous adorons le Seigneur. Car nous pouvons très bien offrir un culte, mais à qui? Puisque, en fin de compte, même si nous prononçons le nom du Seigneur, notre cœur est hostile plus qu'au Seigneur. Or, là, il y a un véritable danger. J'espère être suffisamment clair, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, et les personnes cherchent ce qui leur plaise. Et au lieu de chercher ce qui nous plaît, nous devrions chercher le Seigneur. Ce matin, la véritable adoration consiste à fixer les regards sur le Seigneur. Peu importe le style, ça ne doit pas m'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Et même s'il y a quelques, entre guillemets, fausses notes, c'est pas le cas, mais dans le sens du culte par rapport à ce que je pense, c'est pas important pour moi, j'adore le Seigneur. Rien ne doit m'empêcher d'adorer le Seigneur. Ne faites pas, je prends un cas extrême, comme ces deux sœurs qui sortaient de l'assemblée, d'une assemblée que je connais, et une disait à l'autre, ce matin, le Seigneur n'était pas avec nous. Et pourquoi, lui disait l'autre, pourquoi il n'y a pas eu de don spirituel? Voyez-vous, ces personnes viennent pour quelque chose, mais ne viennent pas pour le Seigneur. Or, qu'il y ait don spirituel ou pas don spirituel, nous devons réaliser la présence du Seigneur au milieu de nous. Ils étaient assemblés pour adorer. La Bible nous dit que cette adoration n'était pas réservée aux sacrificateurs de la tribu de Lévi, c'était une expérience d'adoration à laquelle tout le peuple était invité à participer. Et c'est pour cette raison qu'au verset premier, il est dit, tout le peuple s'assembla, ensuite c'est répété au chapitre, au verset 2, au verset 3, au verset 5, au verset 6, tout le peuple, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et tous ceux qui étaient en mesure de comprendre. Et ça veut dire que même les enfants qui avaient la possibilité de comprendre étaient présents. Je crois que nous devons offrir la possibilité à tous d'adorer. Nous sommes heureux parce qu'il y a aussi pour nos enfants, même ceux qui auraient peut-être du mal à comprendre ce que je peux dire dans ces moments, sont pris à part et on leur parle du Seigneur pour qu'ils adorent Dieu sur la base de ce qui est écrit. Et je crois que ça, c'est très important. C'est la participation au culte. Nous participons au culte. Et je pense que personne n'a raté l'occasion qui lui était donnée d'être présent ce jour-là. Ça aurait été dommage. Aujourd'hui, nous devons requalifier les choses et redonner au culte une place qui lui revient. À cause et facilité par le Covid, ça a bien rangé des personnes. Beaucoup vivent leur foi par procuration ou à distance, mais rien ne peut remplacer la communion fraternelle, car c'est dans ces moments que le Seigneur se manifeste et il est dit que le peuple se tenait à sa place, chacun doit être à sa place, uni dans un même but. Et alors que le peuple était réuni, le peuple fait appel, vous l'avez lu avec moi, au scribe Esdras, pour qu'il apporte le livre de la loi. Alors bien sûr, nous comprenons qu'il devait amener avec lui le livre de la loi. Mais quand on pose la question, qui est-ce qui apporte la parole de Dieu ? On a cette expression au milieu de nous. On pense au serviteur de Dieu qui doit apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il apporte un livre seulement, mais il apporte, il délivre le message de Dieu. Pourquoi ces personnes font-elles appel à Esdras ? Parce qu'il y avait dans leur cœur la faim de la parole de Dieu. Ils désiraient tous entendre ce que Dieu avait à leur dire. Ils étaient unis dans cet objectif. Je crois que si nous sommes déjà unis dans cet objectif, ça peut régler bien des problèmes dans nos vies et autour de nous. Je crois que nous devons venir au culte dans le même but, d'entendre la parole de Dieu. Certains n'ont pas vraiment compris cela et ils ont des interprétations assez particulières. Je me souviens des personnes étant arrivées en retard à la réunion un jour, m'ont dit « Est-ce que le culte est passé ?» Alors, je dis, il est passé par là, il est reparti par là-bas, et c'est quoi le culte est passé ? Pour eux, le culte, c'était le moment de la Sainte-Seine. Et donc, est-ce que c'était passé ou pas passé ? Mais la Sainte-Seine, ça fait partie du culte, et c'est très important. Mais il n'y a pas que la Sainte-Seine. La parole de Dieu doit être au centre de nos rencontres et de nos rassemblements. Et c'est parce qu'on s'en est éloigné dans le passé qu'on a commencé à faire n'importe quoi et que toutes sortes de pratiques sont venues nuire à l'image même que le Seigneur révèle dans sa parole. Je crois que ce matin, devons être unis dans un but, celui d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que nous croyons que nous venons dans sa présence. Nous avons besoin de cela. C'est pour cette raison que nous devons prier pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, afin qu'ils apportent la parole de Dieu. Qu'ils n'apportent pas leurs idées, mais la parole de Dieu. Le point central du culte d'adoration était donc la parole de Dieu. La priorité, c'est la parole de Dieu. C'est écrit, on l'a lu ensemble. Il apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est quelque chose de très, très, très important, la parole de Dieu. Ce peuple avait faim. Esdras apporte la parole de Dieu. Il commence à lire cette parole. Et il lit du matin jusqu'à midi. Et ça m'a quand même interpellé parce que je me suis dit que ceux qui sont venus n'étaient pas préoccupés par le temps. Ils n'étaient pas empressés de rentrer chez eux. Moi, je sais que quand je dépasse, il y en a qui commencent un petit peu à regarder l'heure. Il y en a qui commencent à avoir un petit peu des tics qui se réveillent. Mais parce qu'on a des habitudes comme cela, on vient, on sait qu'il faut que ça dure tant de temps, et c'est pas plus. Hein. Il y a aux États-Unis un certain groupe d'églises évangéliques qui offrent des cultes en 17 minutes chrono. C'est-à-dire que vous venez, il y a deux chants, un message, des annonces, paf, et un autre culte commence. Et les gens aiment ça parce que comme tout le monde est pressé aujourd'hui, et bien sûr ça pose de vrai problème. Il n'était pas préoccupé par le temps. Vous non plus, j'espère. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses de nos jours qu'on appelle adoration, mais ce n'est pas de l'adoration. Aujourd'hui, quand on se réunit, on met l'accent beaucoup sur l'émotion. C'est l'émotion, voyez-vous, c'est plus sensuel que spirituel. Alors, c'est sûr que la chair trouve ce qu'elle cherche. Ah, c'est elle. Ah. Mais ce n'est pas parce que tu tombes dans ces pièges-là que tu es plus spirituel. Il y en a plus, ils sont plus, ils veulent paraître spirituels. Moi, j'en ai vu certains, ils étaient là, demandaient comment ils vont faire. J'avais envie d'en mettre une calbotte. Je me disais, t'es où là? Et c'est vrai que il y a des moments comme ça où il y a quelque chose qui échappe. Parce que entre ce qui est charnel, sensuel et spirituel, véritable, la frontière est très très mince. Et on peut tomber d'un côté, du mauvais côté, sans nous en rendre vraiment compte. Pour cette raison que le culte biblique est avant tout centré sur la Bible. C'est biblique parce que c'est sur la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire, des expériences avec Dieu qui sont véritables. Ce n'est pas le coup d'une émotion. Ces émotions, on peut les trouver à n'importe quel moment. Il y en a, par exemple, des personnes qui regardent un film, Lassie, le chien, et quand à la fin ça finit mal, ils pleurent devant la télé. C'est un moment d'émotion, on ne peut pas dire qu'il y a onction. Vous comprenez bien? C'est là où il faut vraiment faire toute la différence. La prédication de la bonne nouvelle. Regardez, Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui, à sa droite se tenait. Ils avaient fait une estrade pour qu'il soit élevé. Ça nous fait penser à quoi? À ces moments où dans les grands lieux, il y a l'estrade, le serviteur de Dieu monte sur l'estrade, on dit il est monté sur la chair. J'espère qu'il n'est pas charnel, et il annonce la parole de Dieu. Enfin, rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Et ce que nous devons savoir, c'est que Esdras s'était préparé pour la prédication. Il ne faisait pas que lire, puisqu'il est dit avec d'autres, et qu'il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, il lisait distinctement et donnait le sens. Et même s'il y en a un qui s'appelait Sherebia, ici vous l'avez lu, pas Charabia, et ce n'était pas du Charabia. Il y en a d'autres que nous, on a, c'est vrai, des fois on a entendu des choses, c'était du Sherebia. On ne comprenait rien. Là, c'était préparé, il s'était tenu devant Dieu. D'ailleurs, je vais lire avec vous dans Esdras, au chapitre 7, le verset 10. Regardez ce qu'il est dit. Car Esdras, 7, 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il s'était appliqué, ou il avait appliqué son cœur, il a étudié et il s'est préparé, il était préparé à mettre en pratique la loi avant de l'annoncer aux autres, la parole du Seigneur qui est annoncé dans ce culte par Esdras et ensuite par d'autres, ne laissait personne indifférent. Regardez le verset 5. Néhémie, chapitre 8, verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Il y a quelque chose qui se produit. Cet homme s'est préparé, il va donner la parole de Dieu, il va annoncer le message de Dieu. Au moment où il commence la lecture, paf, tout le monde est en place. Tout le monde se tient à sa place. Ça veut dire que ça ne bouge plus dans les rangs. On est attentif à ce qui est en train de se passer, attentif à la parole de Dieu. Ils savaient que cette parole était bénéfique. Ils avaient du respect pour cette parole et un désir profond de l'entendre, de connaître la vérité que Dieu voulait révéler. Oh, bien comme nous avons besoin aujourd'hui de ce respect de la parole de Dieu. La Bible nous révèle avant tout le cœur de Dieu. La Bible nous permet de connaître le cœur de Dieu. Dieu qui nous a donné sa parole, nous l'a donné pour que nous sachions comment bien vivre. C'est pas anodin. Dieu nous a donné une parole, c'est pas pour qu'elle soit laissée de côté, c'est pour que nous comprenions quelle est sa volonté. C'est cette parole qui a donné à notre cœur la conviction, qui nous a amené à la repentance et au salut, parce que elle nous a révélé le plan de salut. C'est dans cette parole que je trouve des encouragements. C'est cette parole que Dieu m'a donnée qui me donne des directions dans ma vie. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu ne doit pas être ignorée. Elle ne doit pas non plus être redoutée, mais elle doit être chérie et elle doit être respectée. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Parce que le véritable adorateur, c'est quelqu'un qui laisse le Seigneur œuvrer au plus profond de son cœur. J'ai pris une citation pour vous expliquer ce qu'est la vraie adoration. Adorer, c'est vivifier notre conscience par la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. C'est nourrir notre esprit avec la vérité de Dieu. C'est purifier notre imagination par la beauté de Dieu. On remplace ce que l'on imagine par la réalité. Ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, c'est ça la. Et c'est consacrer notre volonté à accomplir la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas un moment, c'est un engagement. Et alors que nous recherchons le Seigneur, découvrons sa sainteté, notre conscience est vivifiée. Nous nourrissons notre esprit des vérités de notre Seigneur et notre imagination est purifiée. Notre voile est comme déchirée. Nous pouvons le contempler tel qu'il est, avec dans notre cœur un désir de se laisser remplir de l'amour de Dieu et aussi de s'engager à obéir à sa parole. Au chapitre 8, le verset 6, toujours, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Ça veut dire qu'à la lecture de la parole, la Bible nous dit que Esdras bénit l'Éternel. À un moment donné, il a lu cette parole, et au verset 6, il bénit l'Éternel. Il est dans cette profonde relation avec n'est qu'une réalité à ce moment-là. Et la Bible nous dit que spontanément, le peuple lève les mains et dit « Amen, Amen !» Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. C'est extraordinaire parce que la lecture de la parole de Dieu communique de la joie. Et cette joie, elle s'exprime dans l'acceptation de ce qui est dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je pense que c'est ce que la parole de Dieu devrait produire. Mais moi, quand je prêche et que je vois que ça ne produit rien du tout, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Ils sont ou morts, ou presque morts, ou alors c'est moi qui dis des bêtises. Mais regardez la spontanéité qui est exprimée ici. Et il n'y a rien de mal à cela. Quand la parole de Dieu nous révèle quelque chose, que l'on dise « Amen !» Mais c'est vraiment la réaction de notre cœur. Bon, on est devenu un petit peu timoré, hein. On a un peu peur d'exprimer quoi que ce soit, de peur que les autres comprennent que l'on est un petit peu dans la vérité, il ne faudrait pas non les choquer. Je ne sais pas quel raisonnement est le nôtre, mais on perd cette spontanéité. Mais là, on est dans l'ancienne alliance, le peuple est réuni, il lit la Bible, et il est loin de pouvoir révéler ce que nous pouvons partager, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous connaissons la grâce de Dieu, la victoire de notre Seigneur. Et le peuple, dès qu'il bénit l'Éternel, et bien le peuple se loin, lui, amen, amen, en levant les mains vers le ciel. Je dis, c'est extraordinaire. Ça a dû être une réunion magnifique ce jour-là. Et puis, ça ne s'arrête pas là, le verset 6 continue. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Il y a d'abord ce moment de joie, c'est ta parole, qu'il en soit ainsi, amen, amen. Et ça se traduit aussi tout de suite après par un profond respect, une vénération. Ils se courbent le visage contre terre, ils inclinent leur vie devant le Seigneur, ils courbent les chines devant Dieu, ils sont là dans leur respect, dans l'adoration. Crois que nous avons besoin de cette vénération divine dans nos cultes. Crois que nous ne sommes pas réunis ce matin pour du social, on n'est pas là pour du religieux, on n'est pas là pour faire passer le temps. On est là pour adorer le Seigneur et je crois que Dieu mérite le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné le meilleur. Il a donné le meilleur pour chacun d'entre nous. Nous pouvons saisir maintenant la sainteté de notre Seigneur et dire que c'est beau, alléluia, qu'il en soit ainsi et se courber. Et au chapitre 9, le verset 3, regardez, ils ont eu une attitude, cette attitude dont nous avons besoin si nous voulons faire l'expérience du vrai culte, c'est l'attitude d'un engagement. Ils étaient chacun placé, chacun à sa place. On l'a lu dans le livre de la loi, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent que leurs péchés se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Les gens se sont tenus à leur place à la lecture de la parole de Dieu. Alors, si je veux comprendre le texte, je ne parlais que de la journée. On va dire que pendant 3 heures, ils ont écouté. Et pendant 3 autres heures, ils ont confessé. Ils ont abandonné leur péché. Ils ont réglé leur vie devant le Seigneur. Et vous vous dites, mais il insiste ce matin. Est-ce qu'il a l'intention de faire pareil? Et vous remarquerez que pour ce culte, il y a autant de temps à la parole de Dieu qu'il y a de temps à mettre en pratique cette parole. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller, à savoir que c'est important de savoir, et c'est autant important de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas être là dans l'impatience, comme je le disais tout à l'heure, et de s'agacer parce que le temps passe, nous devons profiter de ces moments, de pouvoir ainsi avancer. D'ailleurs, je veux partager une dernière citation avant de terminer dans quelques instants. Le meilleur des cultes publics, c'est celui qui produit le meilleur des cultes privés. Ce qui est important, c'est ce que nous vivons à condition qu'il y ait une suite. Si ce que nous vivons n'a pas de suite, ça ne sert à rien. C'est un peu comme la pluie qui tombe. Vous savez, quand on attend la pluie, elle arrive d'un coup, alors il tombe des sonneaux, ça fait des dégâts. L'eau, elle roule à 1 mètre par seconde sur la terre, ça va dans la mer, mais ça n'alimente pas les nappes phréatiques. Nous, nous voulons une action de Dieu en profondeur dans notre vie pour pouvoir être ce que le Seigneur attend de nous. La Bible nous dit, pendant 3 heures, le peuple a confessé ce qu'il y avait dans son cœur devant le Seigneur. Les gens étaient en train de vivre un véritable réveil. Ils mettaient leur cœur en ordre devant Dieu. La Bible nous dit que Esdras avait lu cette parole. D'autres sacrificateurs avaient lu. Mais remarquez, Esdras n'a jamais incité ces gens à réagir comme ça. Ils ont spontanément confesser ce qu'il y avait dans leur cœur devant le Seigneur. C'est ça le véritable réveil. C'est ça le vrai culte. Mes frères et sœurs, le vrai culte, ce n'est pas d'assister, de participer dans le sens « j'ai chanté, j'ai apporté ma prière » et tout. C'est qu'il y ait un résultat dans notre vie. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous parler avant de partager la Sainte-Seine, parce que ce qui est important, c'est ce que nous allons faire de la parole de Dieu. Et moi aussi, j'ai envie de bénir le Seigneur. Et j'ai envie de vous voir lever les mains et de dire « Amen, Amen !» Qu'il en soit ainsi. J'ai envie aussi de me placer devant le Seigneur et de mettre de l'ordre dans ma vie. Et j'ai envie aussi de voir ce travail s'accomplir dans le cœur du plus grand nombre. Et c'est vrai que le peuple ici était sérieux. Voyez-vous, la vraie adoration, ce n'est pas simplement d'organiser une célébration, mais c'est qu'il y ait des conséquences dans notre vie. Parce que si le fait de célébrer le Seigneur et de réaliser sa sainteté n'apporte pas de la pureté à la vie, alors ça n'a servi à rien du tout. Pour cette raison que ce matin, j'insiste en vous disant, n'adorez pas, ne louez pas les méthodes, mais adorez le Seigneur. Approchez-vous de lui et laissez-le régner dans votre cœur et dans votre vie. Faites une réelle expérience ce matin et bénissez Dieu de tout votre cœur. Je le dis à vous et ceux qui vont nous suivre également sur YouTube, que Dieu vous bénisse et vous permette de vivre quelque chose d'intense avec le Seigneur.
Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ton onction, pour ta présence, pour ta grâce. Merci parce que tu nous as conviés ce matin. Et nous sommes venus avec dans notre cœur la faim, la soif d'entendre ta parole. Nous voulons connaître ta pensée, tu nous la révèles. Et nous ne voulons pas simplement la connaître, mais nous voulons la vivre, car nous ne sommes heureux qu'à condition de mettre en pratique ta parole et pas seulement de la connaître. Alors, remplis nos cœurs et donne de l'enthousiasme à chacun d'entre nous. Que cet enthousiasme traduise l'amour que nous avons pour toi, l'amour que nous avons pour ta parole. Nous aussi, nous voulons lever les mains vers toi dans la louange et dans l'adoration et dire Amen, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Réveille nos vies, réveille nos consciences. Bénis-nous, remplis-nous, Seigneur, et accorde-nous de vivre quelque chose d'authentique dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Alors, Seigneur, ce matin, en partageant la Sainte-Seine, je veux confesser, je veux abandonner, je veux mettre de l'ordre devant toi, car ça fait partie de ce culte qui te revient, la consécration, l'offrande de ma vie, l'abandon de ma misère, pour que tu puisses m'utiliser pour ta gloire.